matin, encore une fois, parce que nous croyons que un culte sans la parole de Dieu, ben, on passerait à côté, totalement. Parce que le plus important, c'est ce que le Seigneur veut nous dire à chacun. Et je voudrais vous poser une question. Cette question, Jésus l'a posée à quelqu'un aussi. Et je me la pose également, hein, vous inquiétez pas. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous vous souvenez dans quel contexte Jésus a posé cette question? Marthe et Marie. Dans un contexte de deuil, Jésus a choisi de poser cette question. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Alors on va aller dans Jean chapitre 11. On va lire quelques versets de ce passage. Jean chapitre 11, on peut lire à partir du verset 21. Voilà ce que nous pouvons lire. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'avait pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux vinrent dire, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où était couché le mort, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Est-ce que Marthe a vu la gloire de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Un homme, son frère, qui était mort depuis 4 jours et qui s'est levé miraculeusement. Alors vous avez vu? Autant Marthe que Marie ont fait la même prière, ont dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. » Et est-ce qu'elles avaient raison? Ben oui, parce que Jésus avait déjà guéri tant et tant de personnes. Et c'est même un reproche que quelqu'un lui a fait. Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il pouvait pas faire qu'il ne meure pas, Lazare? Oui, il pouvait le faire. Mais il n'a pas voulu, parce qu'il voulait donner une leçon de foi, encore une fois, dans ce passage. Le Seigneur aime bousculer notre foi. Le Seigneur aime nous mettre dans des situations où c'est notre foi qui doit réagir plus que tout le reste. Et souvent, il attend le dernier moment où il n'y a plus de force dans aucun autre domaine pour que ça soit seul l'étincelle de la foi qui déclenche quelque chose. Et c'est pour cela qu'il pose cette question, qu'il dit cette phrase, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu est possible seulement là où il y a de la foi. Est-ce qu'il y a de la foi dans vos cœurs? Alors ça, c'est chacun qui répond pour soi. C'est difficile de dire « je sais quelle est la foi de telle ou telle personne ». Même si les œuvres que nous faisons démontrent notre foi. La foi sans les œuvres, nous dit l'apôtre Jacques, elle est morte. Dire « j'ai la foi, je suis quelqu'un qui croit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », c'est bien, mais comment tu vis ta foi? Et c'est ça qui est important pour le Seigneur. D'ailleurs, nous allons voir ce matin 5 sources de gloire, c'est-à-dire que quand nous faisons en sorte que par la foi nous agissons de cette 5 manières-là, eh bien c'est automatique, nous allons voir la gloire de Dieu. Ce sont des promesses de la parole, ce sont des déclarations de Dieu. Si nous croyons que la Bible est vraie, nous croyons que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai, et nous croyons que ce que Dieu dit par rapport à la gloire dans sa parole, c'est vrai aussi. Vous êtes d'accord? C'est pas moi qui invente là, hein? Alors, vous allez voir que ce sont des versets dans la parole. Je vous donne les 5 sources de gloire. Il y en a d'autres, bien sûr, mais sinon on prendrait 2 heures pour la prédication. L'obéissance, l'humilité, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Aimer Dieu, abandonner la honte, ou mépriser la honte, et puis surpasser la souffrance. Tout ça, la Bible nous dit de manière claire que c'est une source de gloire. Si je veux voir la gloire de Dieu, alors il faut immanquablement que je passe par ces étapes-là. Regardez dans le Lévitique, au chapitre 9, et au verset 6, on s'aperçoit qu'à chaque fois, dans chacun de ces comportements-là, c'est une manifestation de la foi. Si tu crois, si tu as la foi, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais la foi s'exprime de plein de manières différentes. Et une des premières, c'est l'obéissance qu'on trouve dans ce passage. Lévitique, chapitre 9, verset 6. Je sais que vous aimez beaucoup le livre des Lévitiques. Mais regardez, il y a des vérités intéressantes quand on s'y penche, quand on approfondit ces passages. On peut lire au verset 5, « Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Vous avez bien lu ce verset 6 ?« Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire du Seigneur apparaîtra. » On peut aller jusqu'au verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et ils se jetèrent sur leur face. Amen. Dieu avait ordonné certaines pratiques, toutes les pratiques de la loi juive, donc il y avait des sacrifices, des holocaustes. On sait très bien, parce qu'on est maintenant dans le temps de la grâce, que tout cela n'était que des images du sacrifice de Jésus qui allait être fait à Golgotha. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand ces personnes ont obéi de manière scrupuleuse à ce qui leur était dit, si vous obéissez aux ordres que l'Éternel vous a fait, alors vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur va vous apparaître. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont préparé, et eux, c'était de manière pratique, hein. C'était qu'il fallait préparer des animaux, alors c'était un travail de boucher, on peut dire ça comme ça, le travail du sacrificateur, ça a représenté ça un petit peu, mais au final, le sacrifice était prêt, au final, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire du Seigneur est apparue, sous quelle forme? Le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste pour marquer l'approbation de Dieu. De la même manière que quand Jésus a donné sa vie à la croix, il y a eu l'approbation de Dieu. Le feu est venu consumer le péché qui était représenté par le Seigneur Jésus. Il a porté nos péchés sur lui. Le feu de la colère de Dieu est tombé sur Jésus-Christ de manière spirituelle, et ce qui fait qu'on peut être gracié, innocenté, alors qu'on est coupable. C'est merveilleux ça quand même. Ça, c'est la justice divine qui fait que même les coupables peuvent être innocentés parce que quelqu'un a payé le prix. Et c'est ça la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance. Est-ce que vous aimez obéir? Ça dépend à qui. Ça dépend à qui. D'accord? Est-ce que si Hitler était vivant, est-ce que vous aimeriez lui obéir? Bon, on est d'accord, hein? Parce qu'il ne représente pas forcément des bonnes choses du tout. Mais quand il s'agit du Seigneur, est-ce que nous voulons lui obéir? Si tu crois, et on pourrait rajouter, si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur va t'apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir la gloire de Dieu. Pour Marthe, c'était que la puissance de Dieu se manifeste dans le corps mort de son frère. C'était ça, voir la gloire de Dieu. Pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de différent, mais c'est expérimenter de manière concrète la présence de Dieu. Amen. Ça vous intéresse comme programme comme ça? Expérimenter Dieu dans notre quotidien. Dieu, c'est pas quelque chose qui est réservé au dimanche matin. Dieu, c'est une personne qui veut manifester sa présence dans notre quotidien. Et voir la gloire de Dieu, c'est voir Dieu dans notre vie de tous les jours, tout simplement. Mais il faut l'obéissance. Il y avait un lord du Parlement britannique qui s'appelait Neil Martin. Et il a fait venir un groupe d'électeurs, donc des gens qu'il avait élus à ce poste-là, parce que il voulait leur faire visiter la chambre des députés du Parlement britannique. Donc il leur fait faire le tour, voilà, c'est la salle où on se réunit pour décider, voter, etc. Et puis au cours de la visite, il rencontre un autre lord, Lord Aylsham. Et ce monsieur-là, il avait revêtu, vous savez, ils ont un joli costume officiel, un peu en antique, on va dire. Un beau costume qui faisait vraiment royal. Et donc, quand Aylsham a reconnu Martin, il lui a crié « Neil !» Sauf qu'en anglais, le mot « Neil », ça veut dire aussi « à genoux ». Et donc, quand ils ont entendu « Neil », il appelait le Lord par son prénom. Les gens qui étaient là, qui ont suivi l'autre Lord, ils se sont tous prosternés, mis à genoux. Et les Lords, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce que ils ont obéi bêtement. Ça arrive d'obéir bêtement ou pas? Ça peut arriver. Et la preuve. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Est-ce qu'il nous demande d'obéir bêtement? Ou est-ce qu'il nous demande de comprendre et d'agir en conséquence? C'est ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur veut que nous soyons à 100% dans les actes que nous faisons. Si nous faisons les choses par force, ça n'a aucune valeur devant lui. Si nous prions le Seigneur par force, ça n'a aucune valeur. Si nous lisons la Bible par force, ça n'a aucune valeur. Si nous allons même à l'église par force, parce qu'on n'y trouve pas de joie, mais il faut le faire, ça n'a pas de valeur. Mais si on le fait avec cœur, alors ça peut déplacer des montagnes. Parce que c'est ça que le Seigneur il apprécie, c'est ça qui réjouit son cœur. Jésus a été obéissant. On est d'accord? S'il y a bien quelqu'un qui a été obéissant, c'est Jésus-Christ. Et un des premiers actes d'obéissance, ça a été qu'il a choisi de se faire baptiser par Jean-Baptiste, son cousin. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit « Je suis le Fils de Dieu, donc de toute façon, j'ai pas besoin du baptême. » Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous vous souvenez les paroles de Jésus? Alors qu'il ne voulait pas Jean-Baptiste, il voulait pas, non, c'est moi qu'il faudrait que tu me baptises, c'est pas moi qui vais te baptiser. Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. En gros, laisse-moi obéir à la parole. Jésus lui-même voulait obéir. Est-ce que nous sommes, parce que nous sommes meilleurs que Jésus, exemptés de l'obéissance? Ça serait tellement présomptueux de dire ça. Mais Jésus a obéi, il s'est fait baptiser. Il est passé donc par ses eaux du baptême, plongé entièrement, en disant « Il faut qu'on accomplisse ce qui est juste, il faut faire selon la parole de Dieu. » Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. On pourrait dire que la gloire de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. D'ailleurs, Dieu a parlé « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit est descendu sur sa vie comme une colombe. Je ne sais pas si ça vous intéresse que une visitation supplémentaire du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur votre vie, mais c'est ce qui se passe quand on marche dans l'obéissance, quand on avance de cette manière-là, le Seigneur manifeste sa puissance. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans une société où tous les repères sont renversés. Je ne sais pas si vous le réalisez vraiment, mais combien c'est une réalité. Le seul repère qui demeure et qui restera debout jusqu'à la fin des temps, c'est la parole de Dieu. C'est pas la prédication d'un pasteur. C'est la parole de Dieu qui demeure la valeur sûre. Vous ne cherchez pas dans la bourse, dans les actions des sociétés et tout ce que vous voulez, parce que ça va et ça vient. Investissez dans la parole de Dieu et vous allez voir que ça va rapporter. Parce que c'est ça qui demeure. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera. Aujourd'hui, en France, on est en train de discuter sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Ça existe déjà, hein? Mais on est en train de vouloir le faire pour des couples homosexuels, ou de lesbiennes plutôt. Alors, sans qu'on s'en rende compte, il y a quelque chose qui est franchi, parce que jusqu'à présent, le médical était utilisé pour aider ce qui n'allait pas dans la nature. On est d'accord? La médecine, c'est quoi? C'est donner un coup de pouce. Quand on se fait une cicatrice, on prend un médicament pour désinfecter, etc., pour donner un coup de pouce à la cicatrisation. Mais ce qu'on propose maintenant, c'est de faire plus. Pas aider la nature, mais aider le désir des êtres humains. Et combien c'est dangereux. Parce que les désirs, il y en a des bons, mais il y en a des mauvais. Et il suffit de regarder notre monde autour de nous. Mais il suffit même des fois de regarder dans notre cœur. Hein. Il y a des bons désirs, des fois il y a des mauvais désirs. Mais quand on veut associer la médecine, quand on veut associer la politique, etc., à des choses qui vont dans ce sens, on s'aperçoit que les repères sont chamboulés. Mais, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, on va continuer de s'appuyer sur la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu parce que c'est ça. Notre obéissance ne dépend que d'une seule chose, de ce que Dieu dit dans sa parole. Croyons et obéissons et nous verrons la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 29, verset 23 nous dit autre chose. C'est un verset qu'on connaît, mais on ne connaît pas la référence, mais on connaît le verset. Peut-être pas sous cette forme-là, mais il est repris dans le Nouveau Testament par plusieurs apôtres. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit, il obtient la quoi ? La gloire. Vous voyez, c'est marqué, hein ? L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie ? Alors il faut absolument, ce n'est pas une condition à négocier, il faut absolument que tu sois humble d'esprit. L'humilité, c'est quelque chose qui attire le regard de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on s'aperçoit souvent que l'orgueil, parfois, il se manifeste avec éclat. Mais nous qui sommes croyants, l'orgueil ne va pas se manifester avec éclat en disant, moi je veux, c'est moi qui commande, c'est moi le chef, c'est moi qui veux tout diriger dans ma vie. On va pas dire les choses comme ça, parce qu'on sait que c'est pas bien. Mais l'orgueil, il va venir de manière plus insidieuse, de manière plus cachée, mais il va être là. Et parfois, même sous des apparences d'humilité, on va être plein d'orgueil. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait raconté qu'il était allé voir une dame. Une dame, ça faisait des années qu'elle était dans l'église. Des années, elle faisait aucun progrès. Et elle faisait que dire, « Ah, qui je suis, moi, pour que Dieu s'intéresse à moi. Qui je suis pour que Dieu m'exauce. Ah, qui je suis. » Quand on entend ce discours, on a l'impression qu'elle est pleine d'humilité. D'accord ? Ah, je suis tellement petite. Mais finalement, derrière cela, le Seigneur lui a montré et lui a dit, Madame, votre humilité, c'est de l'orgueil. Derrière vos apparences d'humilité, en fait, vous êtes orgueilleuse parce que vous dites, je suis trop petite pour que Dieu s'intéresse à moi. En fait, ce que je pense de moi est plus important que ce que Dieu dit de moi dans la parole. Vous comprenez la logique ? Des fois, on se cache derrière toutes sortes de pensées qui sont là, qui ont l'apparence spirituelle, mais qui en fait sont de l'orgueil derrière. Et qui nous empêchent finalement de faire ce que le Seigneur nous demande. Et combien c'est important de dire, Seigneur, c'est pas ce que je dis moi qui compte, mais c'est ce que toi tu dis qui compte dans ma vie. C'est pas ce que je ressens, ce que je raisonne qui compte, mais c'est ce que toi tu me fais vivre dans ta parole qui est le plus important. L'orgueil, c'est de dire, je sais ce que Dieu dit, mais je veux faire comme je pense. Parce que je sais ce qu'il me faut, moi. Puis l'humilité, c'est de dire, mon Dieu, il sait si bien ce qu'il me faut. Vous connaissez ce vieux cantique? Il sait si bien ce qu'il me faut. Même si parfois, moi, je comprends pas tout, lui, il sait. Et je lui fais confiance. Et l'humilité, c'est d'avancer dans cette direction. L'orgueil considère ce qui est important à mes yeux. L'humilité, c'est de considérer ce qui est important aux yeux de Dieu et de le faire. Et aux yeux des autres aussi. L'humilité, ça concerne pas que Dieu, hein, ça concerne aussi les personnes qui nous entourent. Vous avez déjà été regardé de manière hautaine, quelqu'un à côté de vous, méprisant, vous regarde vraiment d'en haut, vous avez l'impression qu'il est, oulala, il est sur la tour Eiffel et vous êtes dans le Grand Canyon, tout au fond du Grand Canyon. Pourtant, il est juste à côté de vous, hein. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quelquefois. Mais j'ai pitié. J'ai pitié de cette personne. Je dis, mince, combien se rend pas compte qu'elle est en train d'être loin de Dieu. Quand on regarde les gens avec hautain, mépris, on n'est pas du tout dans l'humilité, on est dans l'orgueil. Et on sait que ça fait pas plaisir, hein, pour l'avoir vécu. Ça fait pas plaisir. Mais le Seigneur ne nous regarde jamais comme ça. Il a beau être dans l'endroit le plus élevé de tout l'univers, dans la sainteté de sa présence, il n'y a rien de plus grand, de plus haut que la présence de Dieu. Pourtant, il nous regarde avec condescendance, avec amour, compassion. Parce qu'il veut nous aider. Et il va regarder celui qui agit de même. Celui qui agit avec humilité, même s'il a une position haute. Il va agir de même. Parce que c'est quelque chose qui le honore. Celui qui est humble d'esprit va voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur, ne reste pas retranché derrière tes raisonnements, derrière les choses que tu penses qui sont bonnes pour toi, mais choisis de vivre dans cette humilité, de croire entièrement dans la parole de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, le Seigneur, il l'accomplit parce qu'il n'est pas un Dieu menteur. Jean chapitre 12, on revient pas loin de ce qu'on a lu tout à l'heure. Jean chapitre 12 et le verset 42. En fait, on voit des réactions qu'a suscité la résurrection de Lazare. Lazare a été ressuscité et ça a produit toutes sortes de choses. Regardez ce qu'il est dit. Alors, Jean chapitre 12 verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous auriez aimé être à la place de ces hommes-là? Ceux qui ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Eh bien non, hein. Parce que quand on est dans cette situation-là dans notre vie, où on aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, on sait que la seule chose qu'on va hériter, mais qui va pas durer longtemps, c'est la gloire des hommes, et la gloire de Dieu va nous échapper. Parce que c'est un choix qu'on doit faire. Est-ce que je veux vivre pour la gloire des hommes, ou est-ce que je veux vivre pour la gloire de Dieu ? Pourtant, certains ont vu la résurrection de Lazare, certains ont vu un miracle, quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est parce qu'on vit un miracle, qu'on voit un miracle, que forcément, c'est bon, avec le Seigneur, tout va aller bien? Ben, combien d'exemples on peut donner? Encore cette semaine, quelqu'un me racontait quelque chose qui s'est passé à Moissac il y a des années en arrière. Alors peut-être les plus anciens se souviennent, mais je crois que ça date de vraiment longtemps. Une dame a été ramenée chez elle parce qu'elle a eu un cancer de l'utérus et c'était trop tard. Ils l'ont ramenée chez elle pour qu'elle meure à la maison. Il n'y avait plus rien à faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, je ne sais plus de quelle manière, mais quelqu'un a entendu parler de la situation qui était chrétien. Il a dit, si vous voulez, le pasteur, il peut venir prier pour votre épouse. Et eux qui étaient face à la mort, ils se sont dit, bon, mais après tout, il n'y a rien à perdre. En plus, c'est gratuit, donc on y va, on va voir ça. Et puis, le pasteur vient, tout simplement, il prie, il impose les mains à la personne, et en peu de jours, elle est totalement rétablie, guérie, plus aucune trace de cancer, plus aucune crainte par rapport à la mort, elle a vécu pendant des années et des années. Résultat, la personne s'est faite baptiser.
Sauf que au bout de quelques mois, ils sont retournés en arrière. Je crois qu'elle s'est faite baptiser, elle et son époux, mais ils sont pas restés longtemps à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un miracle, mais ils n'ont pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. Un miracle physique, c'est une chose, mais le miracle le plus important et qui change tout dans notre vie, c'est le miracle de la nouvelle naissance, le miracle d'un cœur nouveau. C'est pas l'opération que notre frère André a vécue avec l'opération du cœur de manière physique, c'est l'opération spirituelle que le Saint-Esprit, le meilleur des chirurgiens de l'Esprit, c'est le meilleur. Il vient opérer dans notre vie un changement de cœur. Il prend notre cœur sale, corrompu, pécheur, souillé, et il met un cœur tout neuf, nouveau, qui est capable d'obéir à Dieu. Et c'est ce cœur-là qui va avoir la gloire de Dieu particulièrement. Mais pour que ça marche, il faut qu'on soit des gens qui soient désireux d'aimer la gloire de Dieu. Est-ce que nous aimons la gloire de Dieu? Est-ce que nous chérissons l'intervention de Dieu dans notre vie? On peut dire oui de manière intellectuelle ce matin, tout le monde va dire oui. Si j'ai la preuve tout à l'heure, j'ai dit « qui veut voir la gloire de Dieu ?» Vous m'avez tous répondu « moi ». Mais c'est une chose de répondre « moi » et c'est autre chose de le vivre. Moi, j'aime pas rester dans les discours. J'aime que ça soit des réalités dans les actes. David a écrit un psaume qu'on connaît bien, le psaume 63, et qui commence avec cette manière. On voyait que David, c'était quelqu'un qui aimait la gloire de Dieu. Et il dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce qu'il avait un cœur qui soupirait, qui aimait Dieu et qui aimait la gloire de Dieu, alors David, il a vu la gloire de Dieu. Et quand on lit la vie de David, on comprend que malgré ses échecs et ses failles et ses gros échecs et ses grosses failles, il a quand même vu la gloire de Dieu se manifester parce qu'il l'aimait et parce qu'il le cherchait de manière concrète dans sa vie. Il soupirait après le Seigneur. À l'image de quelqu'un qui était dans le désert, il savait de quoi il parlait, hein. Il en a vécu des déserts. De manière physique, mais il a vécu aussi des temps où il était comme desséché intérieurement et il savait que le seul endroit qu'il avait besoin, c'était la présence de Dieu pour qu'il soit à nouveau rempli. Est-ce que nous soupirons après la gloire de Dieu? Est-ce que vous soupirez après la gloire de Dieu? Est-ce que vous cherchez la face de votre Seigneur avec autant d'avidité et d'ardeur que David a pu le faire? Mais si c'est le cas, vous verrez la gloire de Dieu, parce que c'est la parole qui le dit. Regardez dans Marc aussi. Marc chapitre 8. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Vous avez déjà entendu ce verset aussi. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Vous avez bien remarqué, le Seigneur, il dit pas les choses à moitié, hein. C'est une chose d'avoir honte de l'homme historique Jésus. Mais c'est autre chose d'avoir honte de son enseignement. Vous comprenez? On peut croire que Jésus a existé de manière historique, mais ça va pas changer notre vie. Mais quand on croit dans les paroles de Dieu et qu'on les met en pratique dans notre vie, là, ça transforme un être. Mais quiconque aura honte de ses paroles du Seigneur et de sa personne, eh bien, le Fils de l'homme, Jésus, aura honte de lui dans la gloire. Ça vous intéresse, ce programme? Non. Moi, je veux pas, Seigneur, que tu aies honte de moi. Je veux pas, quand tu vas revenir, bientôt le Seigneur va revenir, mais je veux pas être trouvé confus et éloigné de toi, je veux être trouvé prêt à ce que tu me ramènes dans ta présence, Seigneur. Pierre a dit un petit peu la même chose. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Dites-le, heureux. Vous êtes heureux si vous êtes outragé pour le nom de Christ. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand on se moque de vous à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, dit la parole. L'Esprit de gloire, vous allez voir la gloire de Dieu de cette manière-là. si on se moque de vous parce que vous croyez en Dieu. Parce que c'est la promesse du Seigneur. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur celui qui accepte d'endurer les persécutions, qui accepte d'endurer les moqueries, qui accepte d'endurer même les injustices, parce que c'est dans le nom du Seigneur, bien sûr. Si j'endure les moqueries parce que j'ai fait le mal, il n'y a aucune gloire que je vais hériter, vous inquiétez pas. Hein. Je vais juste mériter l'injustice parce que j'ai fait le mal, c'est tout. Les méchancetés ou ce qui en résulte. Mais si je reste fidèle au Seigneur et que ça entraîne, peut-être dans mon travail ou dans ma famille, des injustices, des problèmes, des difficultés, mais que je reste fidèle, le Seigneur promet que je vais voir sa gloire. Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une conséquence dans le ciel. Et ça, c'est combien c'est important de le réaliser. La façon dont je réagis avec la honte, ça a une conséquence avec comment Jésus va réagir envers moi. Vous aimez avoir honte ? Qui aime avoir honte ? On est tous... on n'est pas content face à la honte. On fuit les situations qui peuvent nous donner de la honte. Mais... Jésus même, il est dit qu'il a méprisé l'ignominie. Est-ce que la mort à la croix, c'était pas de la honte? Mais je peux vous dire que pour un juif, c'était la pire façon de mourir pour un juif. Il y a un verset dans la loi qui disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Quand on mourait à la croix, on était pendu au bois. Donc c'est comme si on était maudit. Mais Jésus, il est dit qu'il n'a pas considéré ça. Il savait ce que la loi disait, mais il a voulu aller par ce chemin-là, il a voulu mépriser la honte de la croix, il était dans une tenue pas du tout, respectueuse à la croix, parce que il a choisi d'obéir, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait derrière. C'était la purification du cœur de toutes les personnes qui allaient se tourner vers lui. Est-ce que nous sommes arrêtés par ce que nous voyons? Est-ce que nous sommes arrêtés par les difficultés que nous voyons? Ou est-ce que nous faisons confiance et nous revoyons plus haut? Regardez dans Hébreux d'ailleurs. Regardez comment c'est dit dans Hébreux chapitre 12. Juste après avoir parlé de ce fameux chapitre de la foi, vous savez, tous les héros, on connaît bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fermé la gueule des lions, ils ont vaincu des royaumes, ils ont marché dans le feu, ils ont fait beaucoup de choses. Mais regardez ce qu'il est dit par rapport au Seigneur Jésus. Hébreux 12, le verset, alors, attendez que je le retrouve, hein. C'est le verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comment est-ce qu'il a pu souffrir la croix et mépriser l'ignominie? Ben, c'est expliqué. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et quelle était la joie réservée au Seigneur? Ben, c'est la joie de voir des hommes pécheurs que nous sommes devenir pardonnés et des enfants de Dieu et cohéritiers avec Christ. Mais si nous considérons que les choses qui ne vont pas dans nos vies, eh bien, je peux vous dire que non seulement on va pas voir la gloire de Dieu, mais on va voir la dépression, on va voir le négatif, on va voir l'ennemi prendre de plus en plus de place, parce que on sera pas dans la recherche de la gloire de Dieu, mais on sera dans le malheur, la souffrance et la tristesse. Mais si dans ces temps-là, on lève les yeux vers le ciel, on considère le Seigneur, alors c'est lui qui va nous tirer de cela. Méprisant la honte. Et le dernier point, c'est la même chose, c'est la suite logique. Le surpassement de la souffrance. C'est ce qu'il est dit là d'ailleurs de Jésus. Il a souffert. Il a méprisé l'ignominie, mais il a choisi de vivre les souffrances de la croix. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour tous. Et dans 2 Corinthiens, il dit aussi, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les afflictions produisent la gloire. Oh, on aimerait que ce verset il n'existe pas, hein. Mais c'est ce qui est marqué. Nos légères afflictions produisent la gloire. Vous savez ce que c'est les légères afflictions de Paul ? Vous avez déjà réfléchi à ce que Paul il a vécu et ce que lui, il se permet d'appeler. Si c'était quelqu'un d'autre qui commentait, bon, on dirait non, là tu minimises. Mais c'est Paul qui dit nos légères afflictions. Et vous savez ce que c'est les légères afflictions ? Eh bien, c'est la lapidation. C'est les naufrages, le péril dans les eaux, il savait pas s'il allait mourir. C'est les coups, c'est les moqueries, c'est toutes sortes de choses qui ont été faites contre lui. Il y a des gens qui lui ont tendu des pièges, des embûches pour le faire mourir. Et Paul, au milieu de tout ça, il dit, nos légères afflictions. Je crois qu'il avait une bonne façon de voir la vie chrétienne. Hein. Nous, c'est le contraire. Nous, on se casse un ongle. Ah, c'est l'ennemi qui m'attaque. Il y a l'armée de démons de l'ennemi qui m'assaille. Oh là, il faut se calmer. Hein. T'es cassé un ongle, c'est tout. C'est pas grave. Et ça arrivera une autre fois, peut-être. Mais le plus important, c'est de réaliser que toutes les souffrances que nous vivons deviennent une occasion de voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a tardé quand Marthe lui a dit « Mais Seigneur, tu aurais dû venir plus tôt, on t'a fait venir quand même, on t'a envoyé chercher, on t'a prévenu. » Pourquoi est-ce que Jésus a tardé ? Parce qu'il savait que la souffrance que Marthe et Marie allaient vivre, ça allait engendrer de la gloire. Lazare allait mourir, oui, mais Jésus allait le ressusciter par sa puissance. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu ? Est-ce que nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu ? Et là, ne me répondez pas, parce que c'est quelque chose de personnel. Et je peux vous dire que quelqu'un qui répond ce matin de manière vraie devant Dieu, qui dit « Seigneur, oui, je veux voir ta gloire », ben vous allez la voir. Si vous mettez en pratique ce qu'on a partagé, parce que c'est la parole. Hier, avec mon grand-fils Lucas, on est tombé sur ça, on a regardé quelques minutes, les gens qui faisaient le triathlon de Quiberon, en Bretagne. Et je regardais les distances, parce qu'on les a vus, ils nageaient, on avait l'impression que ça s'arrêtait jamais la nage. Mais vous savez que le triathlon, il y a la nage, après il y a le vélo, et après il y a la course à pied. Alors là, ils appellent ça courte distance. Je me suis dit, à courte distance, ça doit être sympa. 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Courte distance. Bon, juste qu'en regardant les chiffres, j'étais déjà fatigué, moi. Mais pourtant, certains sont prêts à faire des efforts incroyables. Ils ont raison de le faire pour la santé, pour se dépenser, etc., pour participer à des courses comme cela, pour au final obtenir quoi ? Une couronne corruptible, comme dit l'apôtre Paul. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence pour une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La gloire de Dieu, il n'y a rien qui peut venir l'entacher sur la terre. Vous voulez voir la gloire de Dieu, alors acceptez de passer par la souffrance et de surpasser la souffrance. C'est-à-dire que je souffre, mais je sais qu'il y a un plan de gloire derrière, alors je continue d'avancer. Je veux pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut m'arrêter, qui veut que je m'assoie sur le bord du chemin. Je veux continuer d'avancer. Ils étaient là en train de nager dans l'eau et ils avaient beau avoir peut-être 15 personnes devant. Vous savez, ça peut décourager de voir tout le monde qui vous dépasse, mais ils continuent parce qu'ils savent peut-être que au moment où il va y avoir le vélo, il va pouvoir rattraper, ou alors à la course à pied, parce que ceux qui ont couru vite, ceux qui ont pédalé vite, ils sont plus fatigués que les autres. C'est comme ça que ça marche dans le sport. Et spirituellement, combien c'est important de continuer toujours à faire l'effort, parce que ça en vaut la peine. On va fermer les yeux quelques instants. Je voudrais, Pierre, que tu puisses préparer le Dieu, nous voulons voir ta gloire dans le M, je crois. On va prendre ensemble un chant qui parle de ce qu'on a évoqué ce matin. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. C'est une chose que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Mais combien c'est tellement plus important que la gloire de Dieu soit dans notre cœur et dans nos vies. Hein? Dans ce lieu, c'est bien. Quand on se réunit, c'est bien. Mais on veut que quand on sort, la gloire de Dieu soit là encore. C'est ça le plus important. Mais le Seigneur nous place ce matin devant sa parole, tout simplement. Est-ce que nous sommes prêts à mettre le prix de l'obéissance pour voir la gloire de Dieu? Ben si oui, alors c'est une réalité que nous allons vivre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.